Tout de suite, rendez-vous en prison pour Racine en prison, épisode numéro 2, avec Christophe, Olivier, Patrick, Richard, Thierry, Teddy, Taoufik, accompagnés de Sarah Louis et Jean-Michel Grémillet, Racine en prison numéro 2.
L'heure bleue sur France Inter.
Je n'attendais pas moins de cet amour de gloire qui partout après vous attacha la victoire. La Judée asservie et ses remparts fumants de cette noble ardeur éternelle, monument, me répondait assez que votre grand courage ne voudrait pas. Seigneur, détruire son ouvrage et qu'un héros vainqueur de tant de nations serait bien, tôt ou tard, vaincre ses passions.
Ce soir, second épisode, Racine en prison. Hier soir, vous avez peut-être entendu la première émission enregistrée dans la prison d'Arles, dans l'atelier que j'ai animé avec Sarah Louis. Ce soir, seconde émission donc, mais comme chaque soir, nous commençons en musique avec J.S. Ondara.
With her legs faire ce travail à cet endroit-là, c'est continuer à faire du théâtre, mais évidemment à le faire tellement différemment, tellement autrement, que c'est une manière de le re-questionner, voire de réapprendre à le faire. Donc c'est une manière de sortir un peu de la routine, d'une forme de quotidien qui serait fait de toujours la même chose. Au contact des autres, parce que tout ça, ça se fait au contact d'autrui, au contact des personnes avec qui on travaille, c'est se retrouver à s'interroger sur pourquoi et comment faire les choses, qu'est-ce qui est vraiment essentiel ou qui l'est pas, qu'est-ce qui est compréhensible ou qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est accessible à l'autre ou qu'est-ce qui l'est pas, etc., etc. Et en faisant ça, on se met à éliminer des choses, à mettre en évidence des choses qu'on ne voyait plus. Et évidemment, tout ça est extrêmement, extrêmement intéressant, oui. Et du coup, évidemment, dans cet endroit, on se rend compte à quel point l'imaginaire, c'est une capacité humaine essentielle, quoi. Et évidemment, c'est certainement l'endroit où, de toute façon, on est, y a pas le choix. Si on le convoque pas, si on convoque pas l'imaginaire, et si on fait du théâtre sans le convoquer, y a plus que la réalité présente du moment et de l'endroit, et cette réalité, elle est étouffante.
Nous venons d'entendre la voix de Joël Pommerat qui exprime son intensité, sa manière de se dépouiller et peut-être de se renouveler dans son art de la mise en scène lors du travail qu'il a entrepris maintenant depuis plus de 4 ans dans la maison centrale d'Arles. Dans la première émission, nous disions que moi, j'avais pu rentrer pour la première fois dans la maison centrale d'Arles grâce à Joël Pommerat. Vous, Sarah Louis, avec qui j'ai eu la chance d'accomplir ce voyage à la fois théâtral, intellectuel, psychique, émotionnel, dans tous les sens du terme, pendant 1 an avec certains prisonniers de la maison centrale d'Arles, vous êtes dans les prisons depuis plus de 10 ans. Il faut dire à nos auditeurs qui ne savent pas forcément à quel point les prisonniers, et c'est heureux d'ailleurs qu'il en soit ainsi, ne sont pas coupés du monde. Vous disiez hier qu'ils lisaient les journaux, ils regardaient la télévision, ils étaient inscrits pour certains d'entre eux à des cours universitaires. Comment et de quelle manière la culture est-elle vraiment acceptée et déployée dans l'univers quotidien de la prison, Sarah Louis?
Ben, c'est assez variable d'une prison à l'autre, mais en tout cas, je sais que Jean-Michel Grumier, qui nous a accompagnés vraiment sur ce projet, qui avec une association qui s'appelle Culture et Liberté, justement lui milite vraiment pour que quelque chose existe de manière institutionnelle qui dit, voilà, la culture est absolument indispensable en prison, c'est comme manger et boire, je veux dire, on en a besoin. La prison est un lieu de privation de liberté, c'est tout, mais il n'y a pas de raison qu'on soit privé d'avoir une vie intellectuelle riche, d'avoir une vie émotionnelle riche, même d'avoir une vie sexuelle, et c'est le cas dans certaines prisons pour longue peine, puisqu'il y a des aménagements qui existent pour que les familles puissent se rencontrer avec les enfants et tout ça, aussi que les gens puissent avoir une vie par moment, on dirait normale, enfin on sait bien que c'est pas normal. Ce qui me frappe moi en prison, c'est cette notion de frontière en fait. Les frontières sont énormes, alors évidemment, la prison est un lieu qui isole, c'est sa fonction, elle est là pour ça, elle est là pour protéger la société de personnes qui ont fait des choses très graves, elle est là aussi pour protéger les personnes qui ont fait ces choses graves, des personnes qui pourraient leur en vouloir. Et ces frontières-là, pour moi, elles sont d'une violence extrême, en fait. Elles sont plus violentes encore que ce qui peut se passer réellement, ce qui a pu se passer réellement en prison et qui ont conduit les gens à être là. Et si on n'a pas de culture, si on ne crée pas les espaces à l'intérieur desquels se glisser, si on n'ouvre pas des brèches d'endroits un peu sensibles, d'endroits dans lesquels on va pouvoir débattre, dans lesquels on va pouvoir simplement se laisser porter aussi par une langue, comme ça a été le cas pendant toutes ces semaines où on a travaillé sur Racine, on n'est pas capable d'être juste quelqu'un qui avance dans la vie, et qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, on a besoin d'avancer, chacun d'entre nous, on a besoin de vivre, tout simplement. Donc la culture... je sais pas, c'est complètement indispensable, mais ça a l'air de... Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Et pourtant, Dieu sait que je crois que les résultats, si on peut parler en termes de productivité, sont quand même très probants.
Alors, il faut dire que la prison reste aujourd'hui un problème assez marginalisé à l'intérieur de l'opinion publique. On parle toujours des prisons pour dire qu'il en faut toujours plus pour enfermer les gens, contrairement à d'autres pays, notamment d'Europe du Nord. La prison était une question éminemment intellectuelle qui était débattue par les plus grands philosophes. Vous avez rappelé dans la première émission à quel point Michel Foucault, mais aussi Gilles Deleuze, mais aussi plein d'autres d'intellectuels majeurs s'étaient emparés de la prison, et notamment avec la création du groupe Information Prison. Aujourd'hui, grâce au travail des militants associatifs, et ils sont nombreux à travailler pour entrer en prison et pouvoir assurer un lien vital avec le quotidien et avec l'existence même intellectuelle des prisonniers. Et puis aussi, il y a des directrices et des directeurs de certaines prisons qui sont plus allants pour ouvrir les portes aux gens issus de la culture pour qu'ils nouent un dialogue avec ces prisonniers. Nous avons eu de la chance, nous avons été soutenus par l'institution et la direction de la Maison centrale d'Arles. Et comme nous avions la possibilité d'introduire du souffle et de l'oxygène par rapport à Racine, nous avons pensé à un marginal du théâtre que nous aimons beaucoup et nous leur avons proposé d'introduire dans leur univers Yves-Noël Genot. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment, Sarah Louis?
Yves-Noël Genot, c'est un poète, c'est un acteur, un metteur en scène qui travaille spécifiquement à l'endroit de la poésie, vraiment. Et donc, il avait travaillé sur Baudelaire et sur Racine, sur Phèdre. Moi, je l'avais entendu dans un spectacle qui faisait sur Baudelaire et Phèdre. Il a ce phrasé très particulier, il a une manière de se glisser dans le mot et dans la langue qui lui est vraiment très singulière à lui. Et on s'est dit, eh ben voilà, travailler sur Bérénice, on peut pas faire l'économie de la poésie que c'est quand même un poème à la base. Cette chose de la langue étrangère qu'est l'alexandrin, je crois que ça c'était quelque chose qui était intéressant à partager. Parce que finalement, et Yves-Noël le dit d'ailleurs, des fois ce qui nous est étranger nous est pas forcément si lointain. Et travailler sur une langue étrangère pour tous, parce que personne parle en alexandrin, personne n'a jamais parlé en alexandrin. C'est pas parce que Bérénice est montée 6 fois par an qu'on en a pris l'habitude, en fait. C'est quelque chose de complètement exotique. Et replacer cette étrangeté-là, grâce à Yves-Noël Genot, ben, je crois que ça leur a beaucoup plu. Ça a été quelque chose d'important et de fort, parce que tout d'un coup, on a déplacé aussi, et c'est là qu'une relation s'invente entre eux et nous, c'est qu'on a déplacé aussi le propos théâtral, toute cette espèce de côté un peu poussiéreux que peut avoir le théâtre, que peut avoir Racine et tout, et on a commencé à rentrer dans la chair. Dans la chair des mots, dans la chair de la sensation, de la vibration, et toute la sensualité de la langue de Racine, elle est partageable parce que finalement ça fait parler aussi de nous. Et ces hommes qui sont, ces 7 hommes-là qui étaient les participants de l'atelier et les femmes qu'on est, on s'est mis à parler par la langue, par la poésie, on s'est mis à parler des rapports hommes-femmes et tout ça.
Le rapport entre Baudelaire et Racine est très intime, très profond. Il y a des vers de Baudelaire qui pourraient être écrits par Racine, quoi. Rimbaud aussi l'a fait remarquer dans une lettre quand il était encore tout bébé, comme il était tout bébé toute sa vie. Et il a dit, les deux dieux, c'est Racine, Baudelaire. Voilà. Alors, c'est enfin une lettre un peu ambiguë aussi, mais il nomme quand même Baudelaire et Racine comme des divinités. Ouais. Racine, c'est un des plus grands poètes français, quoi. Indépendamment du fait qu'il fait du théâtre et qui donc il raconte des histoires, mais sa poésie est immense, comme celle de Baudelaire par exemple, qui est aussi considéré comme le plus grand français. Il y a quelque chose d'archaïque et d'une espèce d'éternel, enfin de rapport à quelque chose d'éternel et puis des origines aussi, enfin qui se retrouve à toutes les époques, mais depuis le début, entièrement là, comme enfin moi je suis un peu bavard, hein. Et chez Racine il y a comme un espèce de rapport à cette quelque chose de, oui, de, je sais pas, qui s'appelle la poésie sans doute, mais d'essentiel de tous les temps, de quelque chose de l'art, de la poésie, qui est, que moi je nomme un peu un archaïsme, mais qui est comme, voilà, Baudelaire aussi. Et c'est que quelques génies comme ça qui peuvent toucher vraiment cet endroit-là, à mon avis. qui est indépendant des époques, je pense. Il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup, non, je prononce mal le nom, c'est Borges, un auteur sud-américain, argentin. Et il imagine, donc c'est beaucoup d'imagination, qu'il n'y aurait qu'un seul auteur qui se réincarnerait dans différentes époques, avec des styles différents, mais qu'au fond, il s'agit de la même chose. Et c'est vrai que quand on lit Shakespeare, on lit Tchekhov, on lit des gens comme ça qui sont dans des époques différentes, il y a quelque chose de commun, le fond est exactement le même, quoi. Il y a quelque chose de...
Comme si ce serait la même idée, qui serait une réminiscence, comme disait Platon, une réminiscence de l'idée. En chaque poète, il y aurait la réminiscence de la même idée, de la même poésie.
Moi je ne connais pas trop Platon, mais peut-être c'est ça qu'il veut dire, oui. Enfin, j'ai cette image d'un auteur qui se réincarne, qui est un seul auteur. D'ailleurs, il y a une phrase aussi de Bernard Shaw que Borges citait aussi beaucoup. Bernard Shaw, c'est un écrivain anglais du première moitié du XXe siècle, je crois. On lui demandait, est-ce que vous pensez que la Bible a été écrite par l'Esprit Saint ? Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que, que c'est l'Esprit Saint, Dieu, qui a écrit la Bible. Bon. Alors il a répondu, mais non seulement la Bible, mais tous les textes. Comme s'il y avait un seul auteur de tous les textes, même les prospectus et tout ça. Ça me touche beaucoup. Et il me semble que Racine, comme Baudelaire, ont la puissance de plonger dans l'origine de ça, dans cette vibration-là, d'une chose essentielle... Et terrible en même temps, enfin une chose de comme un noyau qu'on peut appeler la poésie, disons que la poésie travaille quoi, ou la poésie qui remonte quand même dans ces endroits très archaïques où ça c'est encore Borges, où il y a bien un moment où le bruit, où le mot qui désignait le tonnerre était à la fois un mot, un son, une onomatopée qui imitait le tonnerre et une divinité et un dieu tonnerre. Et il y a dans la poésie comme ça, cette espèce de rêve de toucher cet endroit où les choses et les mots sont, et les divinités sont comme un ensemble originel, quoi. Enfin voilà, c'est une rêverie, je pense, mais je vous pouvais dire aussi le rapport entre Baudelaire et Racine, mais il y a aussi, moi j'ai connu un peu Marguerite Duras, quand j'étais adolescent, et elle aussi est complètement dingue de ça. De Racine.
Elle avait Racine sur sa table de nuit, elle connaissait par cœur toute l'œuvre de Racine.
Ouais.
Par cœur. Elle disait que c'était mieux que la Bible.
Voilà.
Ouais.
Elle était folle de ça, et particulièrement cette pièce Bérénice.
Ouais.
Et c'est-à-dire qu'elle a écrit toute son œuvre des histoires pareilles, en fait, des histoires d'amour impossible comme ça. Mais ce que je voulais
sensuel,
dire.
Sensuel, physique.
Très sensuel, oui. Ouais.
Avec Bérénice.
Avec Bérénice, on
va parler. Particulièrement Bérénice, elle en a souvent parlé et fait un film ou deux films là-dessus. Ouais. Et elle m'avait dit dans la Bible, il y a une phrase quand Dieu sépare, au début dans la Genèse, il sépare la lumière de l'obscurité. Il y a cette phrase il y eut un soir et il y eut un matin. Un premier soir, un premier matin. Et elle disait qu'est-ce qu'on peut écrire de mieux ? On peut rien, et c'est vrai parce qu'on est toujours. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Ça a du sens, mais au fond non. On est toujours dans un rapport jour-nuit, et on peut pas dire mieux que ça. Il y a eu un soir. D'imaginer qu'il y a eu un premier soir, un premier matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était pour revenir sur cette histoire que ce qui semble étranger en fait peut être très très proche. Ce qui est loin est proche.
En fonction de ce qu'on veut faire dire de Titus, s'il aime ou s'il n'aime pas,
ça change.
Effectivement, quand on lit le texte, on ne le lira pas de la même façon.
Mais bien sûr, mais je crois que les grands textes ont cette ambiguïté fondamentale qu'on ne peut pas décider vraiment ce qui est quoi. Voilà, je pense qu'il y a tout. Pour moi, c'est ça qui fait un texte un peu immense, un chef-d'œuvre, c'est que ça va dans tous les sens en même temps. Et c'est quand même touchant, non ? Enfin, moi, ça me touche beaucoup.
Peut-être que la poésie, ça va au-delà des mots, en fait. C'est un esprit.
Absolument, au-delà.
C'est un esprit que l'auteur il met dans son poème et qui s'adresse à d'autres esprits.
Bien entendu.
Donc, en fait, c'est intemporel.
Bien entendu. Au-delà des mots.
Que ce soit le langage,
oui.
La musique, l'harmonie des mots.
C'est exactement ce qu'il dit Cassirer dans son livre sur les mythologies et sur le langage quoi, qui se regagne. C'est comme tu disais, Borges et tout, c'est notre langue. C'est notre langue indo-européenne. Toutes nos racines ont un son. Ils veulent dire quelque chose, comme veulent, qu'on le retrouve dans le voile, tout ça. C'est, ouais, c'est une initiation au voyage aussi.
Ouais, ouais.
Ça veut dire avant tout partir.
Ouais, ouais.
On le retrouve de partout. Dans toutes les langues indo-européennes.
Au départ, le texte, il avait l'aspect d'une difficulté, non pas d'un impossible.
Mmh.
Non, ça aurait été plus facile. Mmh. Donc il avait, c'était compliqué pour nous, l'appréhension de ce texte. Il nous était étranger, on y était hermétique.
Mmh.
Mais à force de lecture et de relecture, au lieu d'être approprié par le texte dans sa difficulté, on a commencé petit à petit à se l'approprier et avec notre subjectivité de le réinterpréter, de le restituer. On y a tous vu des choses assez différentes parfois. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au départ, mais Sarah a bien insisté pour qu'on passe cette barrière de ce langage qui nous était différent. Et au final, comme tu l'as très très bien expliqué, on a commencé chacun à percevoir l'esprit de ce texte, au-delà des mots en fait. Mmh. C'est l'esprit qui est incarné dans ce texte en fait, qui nous a tous touchés de manière sûrement différente, mais qui nous a tous touchés. Mmh. Et du coup, l'obstacle de ce langage qui nous était étranger a disparu.
Mmh.
Oui. Ben oui. Enfin, ce qui est étranger n'est pas toujours le plus loin. On peut être très proche de ce qui est étranger. Ouais. Peut-être au fond.
Mais pour reparler de la liberté, pour il n'y a plus que l'art qui donne la liberté, parce que la liberté, comme elle est écrite partout, tout le monde croit que c'est un acquis, et en fait, elle devient un dogme. Et même, parce qu'on croit que c'est un dogme, carrément maintenant, c'est un dogme mort. Or, la liberté, dans tous les systèmes, il faut toujours les jours la réinventer.
Sinon, que ce soit vivant, oui. Mais si on veut que ça reste une notion vivante, oui, c'est pas. Oui, c'est pour ça que le mot même est un peu. Enfin. N'est qu'un mot, mais on voit ce qu'on veut, c'est un peu ce qu'on veut dire quand même, mais voilà.
Oui, il n'y a que l'art qui nous donne la liberté.
C'est sûr, c'est quelque chose de...
La vraie liberté, quoi, on appelle.
Nietzsche le disait, hein, l'art est là pour nous sauver de la vérité.
Toujours verser des pleurs pour qu'il faut que je dévore, quoi.
Même en la perdant, redouter son courroux, belle reine, et pourquoi vous offenseriez-vous?
Viens-je vous demander que vous quittiez l'Empire, que vous m'aimiez? Hélas, je ne viens que vous dire qu'après m'être longtemps flatté que mon rival trouverait à ses voeux quelque obstacle fatal.
Aujourd'hui, qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, exemple infortuné d'une longue constance, après 5 ans d'amour et d'espoir superflu, je pars.
Oh mais c'est encore vous, mon cher. Mais c'est encore vous, mon cher, me dit-elle tout à coup, me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous, faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous.
je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le second volet consacré à Racine en prison avec Sarah Louis. Il nous restait un seul joker, Sarah. Nous avions la possibilité d'inviter une dernière personne lors de nos ateliers autour de Racine dans la petite bibliothèque où nous nous réunissions deux vendredis par mois pour essayer de comprendre ce texte de Bérénice. Comment ne pas faire appel à Nathalie Azoulay, écrivaine, poète et auteure d'un texte majeur qui a été récompensé d'ailleurs par un grand prix il y a maintenant 3 ans, un livre qui s'intitule « Titus n'aimait pas Bérénice ». Elle aussi, comme Yves-Noël Genot que vous avez entendu tout à l'heure, mais comme Laure Murat que vous avez entendu hier, n'a pas hésité. Elle s'est jointe à notre aventure et je crois que non seulement, d'ailleurs j'en suis sûre, elle était contente, mais nos amis qui étaient dans la bibliothèque aussi. Écoutez.
Le fait d'avoir intellectualisé les femmes n'a pas été, pour l'homme, j'allais dire sa perte, non. Mais le fait que l'homme a toujours voulu que la femme reste à la maison et que ce soit lui qui s'intellectualise. Est-ce que vous y trouvez une corrélation avec ce que nous, on peut ressentir au niveau de la domination et le fait que des gens qui réfléchissent en prison sont considérés comme des perturbateurs?
Mmh. Ben oui, bien sûr, dans tout rapport de force, l'un a toujours un intérêt à ce que l'autre reste soumis. Et c'est vrai que pour les femmes, c'est encore vrai, hein, vous parlez au passé, mais ça n'a pas cessé. Ça s'est peut-être amélioré, mais ça n'a pas cessé. Et oui, ben, par exemple, Molière l'a fait dans l'école des femmes, je ne sais pas si vous avez lu cette pièce. Donc c'est, il raconte très très bien comment l'homme empêche la jeune fille d'étudier, comment il l'enferme, et c'est un système carcéral en fait, et pour éviter toute prise de conscience, toute rébellion, toute émancipation. Donc oui, bien sûr, le savoir c'est un pouvoir, hein, donc il vaut mieux que celui qui est soumis n'en ait pas beaucoup. Pour ce qui est des femmes, ça a été longtemps vrai, alors on se bat, on arrive un peu à s'en sortir, et puis à reprendre de ce pouvoir qu'on nous enlève, mais c'est une lutte difficile et quotidienne et pas du tout finie. Et nous autres occidentales, ça va à peu près, mais il y en a d'autres pour qui ça va beaucoup moins bien, donc oui, c'est vrai. Alors après, pour ce qui est de mon livre, moi je ne l'ai pas écrit de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je ne me suis pas tellement placée du point de vue de la domination masculine. De fait, il y en a une. Mais bon, on a aussi une reine. Bérénice est aussi une reine. Il se trouve que à Rome, là où elle est confrontée à Titus qui devient empereur, elle n'a pas de pouvoir, mais c'est une femme qui a du pouvoir ailleurs. Bah, la modernité de cette tragédie de Racine, c'est vrai qu'elle est frappante, elle a été beaucoup soulevée, relevée, et elle est encore. Elle étonne encore beaucoup les publics contemporains. Parce qu'il écrit donc au XVIIe siècle, il utilise à la fois les codes de la tragédie qui sont en vigueur, mais en même temps il les détourne. Et pour finir, il produit une pièce où on a un trio presque conjugal, même s'ils ne sont pas mariés. Mais on est dans ce trio, deux hommes, une femme, avec une rivalité et une extrême simplicité. C'est-à-dire qu'on entend les clameurs de Rome au loin, mais il n'y a aucune action secondaire en bonne et due forme. Et l'intrigue est très très serrée et très mince finalement. Puisque c'est un homme qui doit annoncer à une femme qu'il la quitte. Et on met 5 actes à le faire. Donc c'est vrai que cette simplicité-là, elle est moderne. C'est vrai que la modernité est allée vers le dépouillement, est allée vers des amenuisements d'intrigues et vers des stylisations. C'est-à-dire on enlève de la matière, on enlève de la charge et on réduit les choses à leur extrême simplicité. Et c'est vrai que Racine le fait... en 1670 d'une manière très surprenante pour le public de l'époque. 2 siècles plus tard, il y a un romancier comme Flaubert qui dit qu'il veut faire un livre sur rien. Bon, et c'est vrai que c'est un rêve d'auteur de faire un livre sur rien, parce qu'on a l'impression alors qu'il y aura seulement le style. Alors c'est un peu utopique, parce qu'il n'y a jamais que le style, mais il y a comme une concentration, une volonté de densité qui est un rêve d'auteur, un rêve d'artiste. Et c'est vrai que Racine l'exprime à ce moment-là, encore une fois, en empruntant les codes en vigueur. C'est vrai qu'il va chercher Rome, il va chercher ce dont la tragédie se sert à l'époque. Mais pour en faire finalement une histoire très, très dépouillée, et surtout un poème... Une histoire humaine, et surtout, on parlait de la langue, mais c'est vrai que c'est le poème, en fait, qui prime dans cette histoire, plus que les enjeux, je dirais. Parce que les enjeux, alors on peut discuter, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, est-ce qu'il préfère le pouvoir, est-ce qu'il a vraiment le choix. Bon, il y a toute une série d'arguments possibles autour de ces questions-là, mais c'est vrai que ce qui reste de Bérénice, c'est le poème.
Ce que je vois dans Bérénice, c'est surtout qu'il y a cette concurrence de pouvoir entre le pouvoir de l'amour et le pouvoir politique. Et que ça met quand même bien en face d'un sujet qui est difficile à aborder, mais qui est la question de la pureté de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que l'amour existe? Vous vous dites, est-ce qu'il y a finalement un rapport amoureux? Mais je ne crois pas à l'amour sans pouvoir, moi. Je crois que le rapport de force est une donnée fondamentale de l'humanité. Je dirais que Titus préfère le pouvoir politique au pouvoir amoureux, parce qu'il sait très bien que le pouvoir politique, ça dure plus longtemps. Et qu'il y a plus de monde à dominer, et que Bérénice, bon, certes, il l'aime, mais il y a un moment donné, il va l'aimer un peu moins, et de moins en moins, et ça va passer. Donc ça va être moins profitable et moins glorieux.
Est-ce que Titus véritablement conquiert Bérénice? On a plutôt l'impression que c'est Bérénice qui conquiert Titus.
Étant donné qu'on les prend dans une situation de crise où il y en a un qui rejette l'autre, elle est dans une entreprise de conquête ou de reconquête. Mais à l'origine, on ne parle pas d'une inégalité ou de déséquilibre entre eux. Merci. L'histoire, en tout cas telle que Racine la raconte, ne rapporte pas de déséquilibre original, enfin au départ de l'histoire. Donc, elle essaye de le reconquérir, c'est sûr.
Et la fin, bon, ben, effectivement, on se demande si elle part vraiment ou si elle va mourir ou quoi. Et donc, parce que dans les tragédies grecques, logiquement, ça finit toujours par un meurtre.
Ah, il y a des morts.
Ouais. Il y a des morts.
Mais là, il n'y en a même pas.
Non, mais là, c'est la mort
du séparation.
C'est la mort du sentiment. Là.
C'est la séparation.
C'est la séparation. Et c'est encore plus déchirant.
Donc, je disais qu'il y avait du chantage funeste. Le fait de dire je vais me suicider si tu ne. L'autre aussi, ben, dit moi aussi je vais mourir. Alors on voit qu'on se sert de ce moyen pour essayer d'accéder à l'autre, en tout cas pour que l'autre réponde à sa requête.
Ouais, peut-être, un peu de chantage.
Au final, ça marche pas trop.
Mais finalement, elle est quand même très magnanime, puisque elle leur dit à tous les deux non mais ça suffit, je m'en vais et basta.
Alors il y a une dimension dans votre livre, Nathalie, en tout cas dans le premier tiers, où. L'héroïne dont vous allez raconter l'histoire aujourd'hui, parce que ça se passe aujourd'hui, elle vient de subir un abandon, elle va très très mal, elle est en dépression depuis pas mal de temps, et puis tout d'un coup, elle trouve dans la bibliothèque un texte de Racine. Et là, à partir du moment où la lecture commence, ça va mieux. Est-ce que ça a un écho autobiographique ?
Bon, oui et non, comme tous les livres, c'est-à-dire qu'à la fois on puise dans son réservoir personnel et dans ses expériences pour aller chercher, comme les acteurs font, de quoi nourrir le roman, on puise dans les observations qu'on a faites, on puise dans les souvenirs, on puise partout, donc oui, forcément, il y a de l'autobiographie qui est à la base du travail. Après, il y a une mise en forme, une transformation du matériau personnel qui est aussi importante, qui est aussi déterminante que la part autobiographique. Et en l'occurrence, là, c'est vrai que j'ai voulu mettre en scène une femme que tout éloignait de Racine, hein, qui n'avait aucune volonté particulière de s'en approcher et qui n'avait aucune raison de le faire, puisqu'elle était terrassée chez elle à se morfondre. Et puis le hasard fait qu'elle prend un livre dans sa bibliothèque, elle se rend compte qu'elle ne connaît même pas toute l'entièreté de l'œuvre, enfin qu'elle c'est pas une spécialiste de Racine qui se met à lire des pièces de Racine, c'est vraiment une amateur qui ne connaît pas grand-chose et qui dès qu'elle commence à lire se dit tiens mais ça ressemble à ce que je viens de vivre et à ce que je vis encore. Et non seulement elle trouve que ça ressemble beaucoup, mais de le dire et de dire l'alexandrin en lisant à haute voix les textes, finalement devient une forme d'apaisement, de baume.
Et ça devient une gymnastique pour elle, je sais pas, elle aurait pu faire du yoga à la place de lire Racine, et tant mieux si elle n'a pas fait de yoga, c'est mieux pour mon livre, mais donc elle commence à trouver dans cet exercice, parce qu'elle le prend au départ comme un exercice, une forme d'apaisement, de bien-être qui monte de plus en plus, et donc elle va évidemment en profiter, parce que tout ce qui peut apaiser sa douleur est bon à prendre, comme elle le dit. Et donc, c'est vrai que c'est pas l'œuvre de Corneille, donc il n'y a pas 30 pièces, il n'y en a que 12, mais elle va les lire, et elle va les lire à haute voix. Et ce moment de lecture à haute voix, qui est un moment de théâtre, finalement, dans son univers à elle, est un moment salvateur. Et c'est à côté, enfin, c'est grâce à ce moment de lecture haute, à haute voix, qu'elle décide de se pencher sur la question de Racine. Puisqu'elle se dit, mais comment est-ce qu'un type au 17e, dont elle sait peu de choses, hein, qu'il est janséniste, qu'il a été courtisan, mais comment un type comme ça peut avoir mis le doigt sur une douleur aussi aiguë, aussi cuisante que celle d'une femme qui est abandonnée, ou d'une femme qui n'est pas aimée, ou qui est rejetée, parce que toutes les héroïnes raciniennes ne sont pas exactement sur les mêmes positions. Mais en tout cas, il y a cette douleur qui est commune, et cette douleur très, très affirmée, très, très épanchée. Et c'est là que l'énigme la saisit, en fait. Il y a un questionnement, il y a une curiosité.
Voilà, est-ce que vous pensez que on peut avoir, en fait, l'homme et la femme peuvent avoir les mêmes sentiments au niveau du sentiment amoureux que du sentiment de rupture?
Mais j'ai envie de dire oui. Après, l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités et l'histoire des sexes fait que les femmes ont plus subi, ou en tout cas ont plus dramatisé ça, parce qu'elles faisaient moins de choses. Elles ne faisaient que attendre des hommes qui étaient partis, qui étaient pris par l'action. Et comme elles travaillaient peu pendant des siècles, eh bien, elles étaient tout entières tournées vers l'intérieur, vers le sentiment, vers l'amour. Bon. Tout ça, heureusement, change. Donc peut-être quand les femmes seront très occupées, très conquérantes et très actives en dehors de l'intimité, elles seront dans la position des hommes. Pour l'instant, c'est pas tout à fait équilibré. On a quand même tendance à voir, en tout cas moi, c'est ce qui me revient, c'est ce que j'observe, c'est que les femmes sont toujours terrassées et les hommes toujours un peu moins, puisqu'ils sont repris par bon. Mais peut-être c'est une généralité qu'on ferait bien d'oublier. En tout cas, ce qui est sûr, pour revenir à la question de la domination masculine, c'est qu'au début de ce roman, la femme est fâchée avec les hommes. C'est-à-dire que elle a été tellement maltraitée par celui dont elle ne s'attendait pas à ce qu'il la maltraite, qu'elle lui en veut évidemment beaucoup. Et elle est très heureuse de tomber sur un auteur masculin qui a si bien approché ce phénomène-là pour essayer de se réconcilier avec le masculin. C'est-à-dire, c'est dit au début du roman. Il y a des femmes qui ont écrit sur l'amour, sur la douleur amoureuse, et de très belles façons. Alors là, on cite par exemple Marguerite Duras. Mais l'héroïne dit, si je vais lire Marguerite Duras, j'en reste au même point. C'est-à-dire, des femmes sont plaquées, abandonnées, terrassées, et je ne me réconcilie avec rien, et ma douleur ne progresse pas, et je ne sors pas de ma prostration. Si un homme me tend le micro ou donne un écho à ça et le raconte d'une manière aussi juste, aussi aiguë, aussi attentive, alors moi-même je vais me relever et je vais aller de nouveau vers le masculin en isolant Titus, bon, celui qui lui a fait du mal, mais en ne les condamnant pas tous. Voilà. Donc il y avait aussi cette volonté au départ de réparer un dommage et peut-être de redonner sa chance à la rencontre du masculin et du féminin.
À un moment, l'aventure devait se terminer. Et pourtant, elle continue. Elle continue à l'intérieur de nos têtes. En ce qui me concerne, elle a été extrêmement importante. Je n'ai pas l'intention d'abandonner ma passion pour les prisonniers, pour le dialogue et la nécessité de la culture dans la prison. Sarah, merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté, à la fois en amitié, en intensité, en rigueur de compréhension du théâtre et de Racine, et puis dans cette sorte de compagnonnage silencieux lors de nos séances en bibliothèque, où c'était pas par des mots qu'on communiquait, c'était par les yeux, parce qu'on était toutes les deux complètement en empathie avec la parole de nos amis les prisonniers. Mais je crois qu'aussi, vous aussi, vous allez continuer.
Oui, je vais sans doute continuer. Après, je peux vraiment pas dire que c'est une habitude pour moi de travailler en prison, parce que chaque projet est très différent, et puis chaque projet naît par une nécessité, je crois, vraiment une nécessité de se déplacer de sa pratique, de déplacer son corps dans un autre espace, de traverser ses couloirs, de serrer toutes ses mains, d'aller rencontrer des visages.
Et merci au personnel des prisons qui ont été très sympas avec nous et qui nous ont sans arrêt coucounés.
Oui, on a travaillé dans des très bonnes conditions. Je crois que travailler dans une maison centrale, c'est pas du tout la même chose que travailler dans une maison d'arrêt. Je profite aussi de dire à quel point ça a été très fort pour moi cette année qu'on a passée, cette espèce de petite communauté qu'on a créée. Toutes les deux, avec ces 7 personnes-là, avec Jean-Michel qui était là aussi et qui nous accompagnait. Moi, j'aborderai plus jamais Racine de la même façon. Je pense qu'entendre résonner ces mots-là dans l'enceinte d'une prison, ça m'a apporté beaucoup de choses pour mon travail à moi personnel. Et je tiens à dire que quand on intervient en prison, et quel que soit le travail qu'on fait, le vôtre et le mien n'est pas le même, mais on est quand même toutes les deux dans une quête de on cherche des brèches, quoi. On cherche des brèches. Et c'est ça qui s'ouvre, c'est ça qui se déploie quand on va dans ces espaces-là. C'est important d'y aller ensemble aussi. C'est important d'y aller à plusieurs et de pouvoir confronter nos subjectivités, les nôtres, les leurs. C'est particulier. Chaque expérience est vraiment très, très singulière. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Voilà. C'est vrai que ça a été très fort cette année passée. Ouais, ça a été très fort.
Il n'y a pas eu de dernière séance. D'ailleurs, nous allons retourner toutes les deux dans cette bibliothèque et nous allons écouter évidemment ensemble avec eux le produit de leur travail, car ce que vous avez entendu depuis hier soir et ce soir, c'est leur travail. Et évidemment, à un moment, il a été question de la nécessité ou pas d'être là avec eux. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer pour eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour qu'ils soient aussi fidèles à ces rendez-vous du vendredi après-midi? Écoutez-les.
Tu avais en face de toi des mécréants. Des mécréants culturels, super pas emballés par les Alexandrins, d'accord ? T'as pas lâché l'affaire et t'as su avec talent et humanité, en fait, nous y amener tous un par un.
C'est ce qui nous attire aussi, c'est l'humanité qu'il y a quand vous intervenez. Ça nous manque aussi, ça, et ça, heureusement qu'on le trouve.
C'est une occasion d'avoir un contact avec l'extérieur. C'est une occasion de discuter avec des intervenants. Voilà, c'est pour ça que généralement, je vais un peu vers toutes les activités, même a priori vers ce qui me semble que ça ne va pas m'intéresser, ça ne fait rien.
Bérénice, vous l'aimez quand même.
Oui, justement parce que ça ne veut pas parler. Justement parce qu'on parle de Bérénice et on ne parle plus de la prison.
Voilà,
parce qu'on ne veut plus entendre parler de linge, pas de linge, cantine, boîte de cassoulet, ça nous. Voilà, un peu plus.
Après, on voit quand même que voilà, les gens s'investissent et la moindre de politesse, c'est de s'investir aussi. Je veux dire, les gens font l'effort de venir nous voir. C'est pas qu'un effort, hein, je veux dire, moi je viens très volontiers. Mais ça part aussi de voilà.
Mais de toute façon, c'est simple, si vous partez du principe qu'ici, on est un établissement qui n'est pas destiné à faire sortir les gens, pourquoi les éduquer? Pourquoi faire rentrer des intervenants? Ça ne sert à rien.
Il y a des moteurs.
C'est-à-dire que peut-être qu'ici, la politique d'application des peines, elle est particulière dans le Sud-Est. Hein. Je pense ici à Arles en particulier, là on perd sur certaines choses. Je pense qu'on gagne au fait que c'est une région qui est très attachée à la culture et que ça rejaillit même dans l'atoll. Parce qu'en fait, il y a tellement d'émulsions culturelles dans cette région que, il y a des gouttes. Qui partent comme ça, de ci, de là, et qui atteignent la prison et qui nous permettent des choses formidables. Je pense que ta venue, elle est venue parce que avec quelqu'un d'autre qui était venu, tu en avais entendu parler, ça t'a intéressé.
Joël Pomera.
Joël Pomera. Voilà. Tu vois, en fait, c'est Paris Cochet.
Contagieux.
Voilà, Paris Cochet. Tu vois, il y a des choses qui se passent, et c'est quand même formidable ce qu'on a pu faire ici. Moi, en plus de 7 ans, Olivier en 8 ans, les gens qu'on a rencontrés, les projets qu'on a faits. Les choses qui ont abouti, le spectacle aux Nuits Blanches, l'exposition photo, les concours d'écriture, l'émission de radio, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites ici. Donc, est-ce que tu es prêt à faire le pari de dire « Ok, j'étais dans une prison où on sort difficilement, mais où je me suis nourri, où j'ai partagé des choses que je n'aurais pas pu ailleurs, tu vois ?» Est-ce que tu as décidé de regarder le verre vide ou le verre plein, quoi, tu vois ? Et à la finalité... Moi, on me dit toujours, putain, ça fait 7 ans et demi, pourquoi t'es pas parti, tu serais sorti plus vite ailleurs, tout ça et tout. Ouais, mais moi, il y a des choses qui m'ont rattaché ici, mes proches, mais il y a aussi ça qui m'a rattaché ici, c'est que on est allé toujours de projet en projet, tu vois. Et l'air de rien, ben, ça te fait avancer non seulement dans la temporalité de ta peine, mais ça te fait avancer aussi dans ta vie d'homme, parce que tu te nourris, tu grandis, tu évolues. Toutes ces rencontres, elles ont été, c'est pas pour vous passer la pommade, mais on a eu une chance folle, c'est que tous les gens qu'on a rencontrés, ils ont une humanité particulière qui a fait qu'on est allé au-delà d'un projet. Je veux dire, il n'y avait pas eu que ça, tu vois. Parce que nos rencontres et nos partages, ils ne se sont pas basés que sur Bérénice. Il y a eu plein d'autres choses. Tu te rends compte comme c'est enrichissant? Donc, quelque part, au lieu de se voir perdant sur certaines choses, ben moi, je décide de me voir gagnant. Ben, nous, le propos, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'était ce « on », en fait, tu vois. Mmh. On venait pour faire voilà, on venait pour faire quelque chose tous ensemble, avec Sarah et toi. Et si tu veux, c'est une cohésion et un esprit collectif de partage, plus que des situations personnelles. On apporte tous de notre subjectivité, mais c'était au concours de quelque chose, d'un projet qui nous tenait tous à cœur et qu'on a fait ensemble. C'est pour ça que moi, je pense que le « on » est le plus important. Bérénice, c'est le fil rouge des émissions futures, mais Bérénice aussi, c'est le fil rouge des rencontres entre des personnes, tu vois, avant tout. Parce que enlève le micro, qu'est-ce qui nous reste? Il reste ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a partagé ensemble. Tu vois, on n'est pas venu pour se faire enregistrer, on est venu pour faire des choses avec des personnes qui nous ont donné envie.
Je dis, le voyageur laisse son ombre. C'est-à-dire, là, notre ombre, c'est-à-dire notre poids, on le prend pas quand on vient ici. Justement, pour parler d'autre chose, pour s'ouvrir l'esprit, pour penser d'autre chose. Sinon, il n'y a pas besoin de venir là pour parler des cantines encore. Hein. On l'entend tous les jours dans les couloirs.
Au départ, on ne savait pas sur quoi ça allait déboucher. Donc c'est une aventure humaine qui se construit au fil du temps et qui fait qu'à un moment donné, ben, on est dans le centre d'intérêt, c'était la pièce de Racine, et puis qu'on a avancé, et puis on a eu des rencontres qui sont venus se greffer, et puis voilà, c'est une aventure humaine. Moi, j'ai vu ça comme...
C'est une aventure humaine.
Voilà.
Moi, je rejoins un peu Christophe. Peut-être que le détenu, ce qu'il a, en plus de la personne de dehors, c'est peut-être le lâcher-prise. C'est-à-dire que oui, pendant cette année, il nous est arrivé des choses, on a eu des petits soucis, des problèmes, etc., mais on vient là, et là, il y a le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que, ben, plus rien ne vous touche, finalement. Ben oui, il m'arrive ça, mais j'ai pris 30 ans. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu plus facile pour nous, justement, de relativiser, et puis d'attaquer, même si on a eu un super gros problème, de venir ici, de bonne humeur, et d'être content de vous retrouver. Détenu, on est capable.
On en a l'habitude, pas par rapport aux activités. C'est un truc qui est propre à beaucoup de détenus, c'est qu'il t'arrive des merdes, tu t'es battu en promenade, tu t'es pris un rapport pour un truc et tout, et puis tu arrives au parloir. Et là, tu mets le masque. Il ne faut pas inquiéter tes proches. Alors, tu vas bien, oui, ouais, tout va bien et tout. Tu ne leur parles pas de tout ce qui se passe dans la détention. Sinon, tu vas leur foutre l'angoisse 24 heures sur 24, tu vois. C'est tout va bien. Tu prends cette habitude-là avec tes proches et le parloir, et après, ça devient un instinct. C'est-à-dire que quand tu rencontres des gens que tu aimes bien et à qui tu veux pas donner le souci, ben même si tu en as, tu ne le montres pas. Tu peux faire tous les choix pourris et... Sbagliati, c'est un italien, et foireux de ta vie que tu veux, mais tu dois en préserver les autres. Ils n'ont pas besoin de subir tes choix, tu vois. Et quand tu vas rencontrer des intervenants comme toi ou d'autres pour des projets culturels ou artistiques ou quoi à travers la prison, tu n'as pas le droit. Moi, j'estime que tu n'as pas le droit d'apporter ce négativisme de ta vie, de tes choix plus ou moins heureux, tu vois. Il faut que tu y ailles avec, en fait, le cœur propre. C'est-à-dire, tout le reste, tu le laisses ailleurs. Et tu amènes que des choses positives. Alors à ce moment-là, ben, tu t'enlèves toute la négativité qui est en toi. Même si c'est l'espace d'un instant. Remember me. Remember me.
Remember me. Alors c'est comme pour la réinsertion, c'est-à-dire qu'on va laisser pendant des années des gens enfermés, et puis c'est au moment de la sortie qu'on se dira, ben tiens, c'est maintenant qu'on va lui faire retrouver sa famille, qu'on va essayer de le... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout au long de la peine qu'il doit y avoir un suivi.
Dans certains pays d'Europe du Nord, c'est à l'incarcération. Alors que tu n'es pas encore condamné. Hein, qu'on te propose des contrats d'exécution de peine.
Mais à un moment donné, il faut faire le distinguo entre où tu mets les gens à détention et pourquoi tu les mets et qu'est-ce que tu leur fais faire en prison.
C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ne savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life. Ha, ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être. Mes ex me regrettent, j'ai réussi ma life. J'suis plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux grecs. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. J'rentre en boîte en Quechua, j'suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? J'voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel était sur la rythmique à face.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, car ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. S'achète pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. Ma life. J'ai réussi ma life.
Et c'est avec Oxmo, Puccino et Aurel San, My Life, que nous allons nous quitter ce soir. Non sans remercier encore infiniment Christophe, Olivier, Patrick, Richard, Thierry, Teddy, Taoufik. Merci infiniment aussi à Sarah Louis qui m'a accompagnée tout au long de cette aventure, de cette expérience et de cette traversée, ainsi que Jean-Michel Grémillet qui nous a permis de rentrer dans la prison d'Arles et à toutes les équipes de la prison centrale d'Arles qui nous ont toujours si magnifiquement et généreusement accueilli. Merci à Julien Dumont qui était à la technique ce soir et un immense merci à Lilian Allôme qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie et de sa générosité pour monter ces dizaines et dizaines d'heures enregistrées en prison. C'est donc Lilian qui a réalisé ces 2 heures bleues consacrées à Racine en prison, et merci aussi à Jean-Baptiste Audibert. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.